Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Moi, j'aime l'être libre. Je voyage partout. Je suis installé à Dallas. J'étais au Canada pendant un an et j'aime cette liberté. Je suis né dans un pays communiste, donc la liberté, ça résonne en moi. C'est comme ça qu'on structure nos offres et c'est ça qu'on propose à nos clients.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles, iTunes, Deezer, SoundCloud et toutes les autres. Le pied-à-terre parisien où m'accueille Octave Clabat est un havre de paix. Discrètement niché dans une voie privée lumineuse au nord de la capitale, cet endroit est un refuge de passage pour celui qui vient de déménager avec toute sa famille au Texas. Le fondateur d'OVH est parti aux États-Unis pour donner une nouvelle dimension à l'entreprise qu'il a créée il y a 20 ans et qui fait partie des rares licornes françaises, ces startups dont la valorisation est supérieure aux milliards de dollars. Mais l'entrepreneur, né de l'autre côté du rideau de fer, à l'époque où l'histoire de l'Europe se résumait à un combat entre deux blocs, Est et Ouest, a surtout une personnalité et un parcours hors normes, que Xavier Niel décrit comme le roman d'un héros français. Je suis Guillaume Bréjoras, journaliste aux Échos, et je vous invite à mes côtés pour assister à une heure de conversation passionnante. Bonne écoute. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Et merci de me recevoir à Paris. Alors c'est chez toi, mais c'est l'un des chez toi. Tu as plusieurs maisons, si j'ai bien compris, puisque maintenant tu habites aux États-Unis.
C'est ça, oui. On a aussi en loué une maison à Dallas, oui.
Et alors, comment ça se passe, justement, la vie aux États-Unis depuis 6 mois environ ?
Ça fait 5 mois qu'on y est. En fait, il y a la vie professionnelle et la vie personnelle. La vie professionnelle, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir comment le marché avance là-bas, comment les gens y réfléchissent. Et moi, c'est cette émergence, en fait, qui est professionnelle que moi, j'ai cherché, en fait. À comprendre en fait vers où voir le marché, d'avoir l'accès direct à l'innovation, à les dernières idées, et donc de pouvoir réfléchir beaucoup plus tôt qu'auparavant à des innovations que on doit proposer pour nos clients, vers où va le marché. Donc de ce côté-là, c'est hyper intéressant.
Et pourquoi tu as choisi le Texas?
Pourquoi j'ai choisi Dallas? Tout le monde me pose cette question.
Ça paraît
assez surprenant. En fait, c'est très simple. On a racheté une entreprise il y a 2 ans aux États-Unis. Elle avait différents bureaux. Je suis passé dans différents bureaux plusieurs fois et celui de Dallas me paraissait le bureau où ils avaient le plus de potentiel, le plus de, on va dire, du retard à rattraper par rapport à notre niveau de culture. Donc il y a tout un travail qui m'intéressait à faire avec des équipes en interne pour expliquer notre culture, pour expliquer comment on travaille ensemble, les différents modes de collaboration, le mindset, les valeurs, les basiques en fait de l'entreprise. Et donc c'est là où je pensais en fait que si j'arrive à transformer ces bureaux-là en termes de la culture, je vais y arriver dans n'importe quel état des États-Unis, n'importe quel bureau, n'importe quelle entreprise qu'on pourrait acheter dans le futur. Et donc ça m'intéressait de relever ces défis-là en fait.
D'accord. Et aujourd'hui, tu voyages beaucoup puisque tu as plusieurs implantations à peu près dans le monde entier, pas en Afrique, mais en tout cas dans pas mal de continents. Comment tu gères ta vie au quotidien? Comment tu t'organises pour être présent et suivre l'évolution d'OVH?
C'est vrai que ça a pas mal changé depuis 6 mois, depuis l'arrivée de Michel pour reprendre l'exécution en fait de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup plus de temps pour justement faire mon boulot sur la stratégie. Et donc, mon rythme de travail a pas mal changé. Je suis régulièrement en déplacement. Tous les 3 semaines, j'essaie de pas faire tous les 2 semaines, j'essaie de faire ça tous les 3 semaines. Je pars une semaine ou 2 semaines quelque part. Donc, ça peut être San Francisco pendant 4-5 jours, ça peut être New York pendant 3-4 jours, ça peut être, la dernière fois, j'étais à Toronto 2 jours. Là, je viens à Paris une semaine. La semaine prochaine, je suis à Roubaix et puis je passe par Milan et Berlin. Et ensuite, je rentre. Donc, voilà, j'ai ma famille et ça perturbe un tout petit peu ces nouveaux modes de travail. On se passe pas mal de coups de fil et je vois que les filles, ça les perturbe quand même pas mal.
D'accord. Et c'est vraiment nouveau, ça, pour toi? Pourquoi tu as voulu prendre ce rôle aujourd'hui?
Bah en fait, le rôle stratégique, c'est historiquement, je l'avais. C'est définir la stratégie d'OVH, pousser l'innovation, la bonne niveau d'innovation auprès des équipes et sortir le nouveau produit pour des clients très rapidement. Avec l'entreprise qui grandissait, j'étais absorbé dans pas mal de l'exécution, pas mal de choses qui étaient du quotidien en fait. Et en fait, dans notre métier, faire les deux, l'exécution et penser au futur, c'est impossible. C'est juste impossible. On ne peut pas au quotidien d'être sur les micro-détails et pousser dans les bonnes directions, travailler avec des équipes, les motiver et derrière penser à qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans, où est-ce qu'on est en train d'aller, qu'est-ce qu'il faut qu'on explore. Et donc, j'ai organisé l'entreprise, j'ai mis quasiment 2 ans à mettre au point l'entreprise, l'upgrader en fait, vraiment pour pouvoir refaire ce boulot-là à plein temps. Et donc, depuis 2016, 2016 donc, on a fait la levée de fonds pour accélérer la croissance d'OVH. On voulait investir 1,1 milliard, on s'est dit, ça serait bien d'investir 1,5. On a levé 250 millions, on a donné 20% au KKR Thorey Brook. On a gardé 80% de l'entreprise. Donc on a toujours full contrôle de ce qu'on est en train de faire. Après, on a racheté cette boîte aux US, on a recruté 1 000 personnes. J'ai upgradé tout l'exécutif committee. Et puis Michel, j'ai proposé à Michel de prendre tout ça et le gérer au quotidien et essayer de m'aider en fait à structurer l'exécution pour qu'on puisse arriver d'être ces différentes exécuter ces différentes étapes futures d'OVH en fait. C'est qu'on rêve pour OVH.
Alors, là, tu dis les choses comme si ça s'était fait facilement, simplement. J'imagine que c'est pas le cas. Juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien OVH ou qui ne verraient, comment tu pourrais le décrire aujourd'hui?
OVH est un fournisseur de cloud alternative. On fournit les ressources, on fournit des produits qui permettent aux développeurs, aux administrateurs système, aux DSI, aux tech, d'avoir tous les outils numériques, des différentes typologies des outils numériques. Il y a des outils numériques aussi simples que la téléphonie sur l'IP, l'accès ou le nom de domaine, l'hébergement web ou l'email. Mais aussi, ça va un peu plus loin dans les couches de software où on propose du cloud pour faire de l'infrastructure, on propose des plateformes pour faire des bases de données, de l'intelligence artificielle, de big data, du mobile, de tout un tas de choses qui actuellement, c'est ça qui pousse, fait la transformation digitale. La transformation digitale s'est faite à la base des data. Nous on est ces fournisseurs où on peut stocker toutes ces datas-là avec tout un tas des attributs que on le veut européen, c'est-à-dire la privacité des données. On arrive à isoler légalement proposer aux clients des isolations légales entre les différentes régions. Donc on est implémenté en Europe, dans différents pays, et on arrive à proposer à tous ces clients-là qui sont en Europe une isolation légale des données vis-à-vis des clients qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. On est le seul à pouvoir le faire. Et ça, je l'ai constitué très très tôt dans la structuration d'OVH dès 2004 quand je suis parti en Pologne. Pendant 1 an, de créer la première filiale d'OVH. Dès le départ, en fait, on a voulu cette isolation-là. Et donc, derrière, avec cet attribut européen qui est l'écosystème, qui est la communauté, qui est les partenariats open source, OpenS, les standards. Donc faire de sorte que le client puisse venir chez nous et partir très facilement, les portes sont ouvertes dans les deux sens. Tout un tas d'attributs qui, moi, me parlent, parce que c'est comme ça que moi, je voudrais être client d'OVH. Donc je ne vais pas bloquer le client, je ne vais pas lui donner des contrats 1 an, 2 ans, 3 ans et l'obliger à d'être client d'OVH. Moi, j'aime être libre. Je voyage partout, je viens m'installer à Dallas, j'étais au Canada pendant 1 an, je voyage, je construis OVH et j'aime cette liberté. Je suis né dans un pays communiste, donc la liberté, ça résonne en moi. Et donc j'ai envie d'offrir cette liberté-là pour nos clients. C'est pour ça, comme ça, c'est comme ça qu'on structure nos offres et c'est comme ça c'est ça qu'on propose à nos clients.
Alors là, tu le mentionnes de manière générale, mais ce que j'aimerais bien creuser de manière un peu plus précise, c'est cette installation aux États-Unis. Pour bien qu'on comprenne là où c'est important, c'est que c'est vraiment aussi pour protéger donc les clients qui sont en Europe du Patriot Act. Donc, comment on peut aussi expliquer cette mécanique aux auditeurs qui pourraient pas forcément être au fait du sujet.
Je vais essayer de simplifier, faire une analogie très simple. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle Cloud Act et une deuxième qui s'appelle Patriot Act. Cloud Act, c'est une nouvelle loi qui a été votée il y a un an, quelque chose comme ça, qui est une loi qui dit que les boîtes américaines, les entreprises américaines et les peuples américains doivent respecter la loi américaine, quel que soit l'endroit dans le monde. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les lois américaines en dehors des États-Unis, même en Europe. D'accord ? Et donc, les lois, ils disent, si je veux les donner, tu me les donnes. D'accord ? Et donc, c'est normal sur les territoires américains, la personne discute. Mais lorsqu'il s'agit de respecter ces lois-là en Europe, là, il y a quand même un sacré problème, quoi. Ça veut dire que les lois locaux ne sont pas respectées, notamment GDPR, enfin RGPD. En fait, elle n'est pas respectée. D'accord ? Et donc, quelque part, dans la structuration des entreprises américaines, vu qu'elles sont américaines à la base, même s'ils créent une filiale européenne, tout ça doit répondre à respecter les lois américaines. Nous, en étant une entreprise européenne, lorsque j'ai créé la filiale canadienne, lorsque j'ai créé les filiales américaines, j'ai énormément passé de temps sur les aspects légaux pour pouvoir isoler légalement et faire les murs de Chine entre les différentes entités pour qu'on puisse pas remonter des États-Unis vers l'Europe.
Aucune porosité entre les
Exactement.
États-Unis et l'Europe.
Et donc l'entreprise, elle est déjà prête dans sa structuration légale pour aller un jour en Russie, en Chine, en Brésil, d'autres territoires, l'Inde, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et avoir cette isolation légale, quel que soit l'endroit dans le monde. Et c'est ça qu'on propose à nos clients.
D'accord. Et pourquoi, pourquoi toi, à titre personnel, cette question de la souveraineté européenne est importante ?
Je suis européen. Je veux dire, l'histoire de ma famille, elle est purement européenne. Enfin, je veux dire, on a des bouts de famille en France, en Pologne, en Allemagne. La guerre première, on l'a fait de deux côtés. On a fait la deuxième guerre mondiale de deux côtés. Mes grands-parents sont partis en Pologne visiter la famille après la deuxième guerre mondiale. Ils n'ont pas pu revenir pendant 40 ans. Mon père est né en Pologne en tant que Français. Moi, je suis né en Pologne en tant que Français. En 90, on a pu enfin revenir en France. Je veux dire, j'ai vécu l'histoire européenne, de communisme, capitalisme, etc. Et je ressens les choses qui nous animent, les valeurs qu'on partage, l'histoire qu'on a vécue. Et je comprends pourquoi on réfléchit. J'arrive à comprendre pourquoi les gens y réfléchissent comme ils réfléchissent. Pourquoi en Allemagne ils réfléchissent de cette manière-là. Pourquoi en Pologne. Pourquoi en France. Et toute cette différence culturelle, cette richesse qu'on a, en fait, on a traduit à travers la communauté européenne. C'est pas un pays, c'est une communauté. Et c'est quelque chose d'extrêmement innovant. Je trouve que je me fais toujours la réflexion quand je vais des US au Canada ou des Canada aux US. Je passe la frontière. J'ai... Oh, putain, j'ai complètement. C'est... En Europe, on a perdu on vit dans un espace qu'on veut partager ensemble. C'est très innovant. Et moi, ça m'anime, en fait. Cette innovation-là, cette envie de vivre de cette manière-là, moi, ça me parle. Et c'est pour ça, quelque part, j'ai envie d'aussi contribuer dans cette construction européenne en fournissant des moyens comme cloud à ce que les entreprises européennes puissent se développer sur numérique, faire des transformations digitales sur le numérique, en ayant toutes les innovations, en ayant toute la souveraineté des de données. Et avec ces valeurs européennes. Moi, ça m'anime énormément.
Et quel regard tu as porté sur les États-Unis en grandissant? Je te pose cette question parce que j'ai cru comprendre que Snowden avait révélé que tu avais été écouté par la NSA. Alors, est-ce que c'est vrai ou
Ça,
pas?
je ne peux
Mais...
pas te dire.
en tout cas, s'il a révélé que c'est qu'a priori c'est vrai. Donc, quel regard tu as porté en grandissant sur les États-Unis?
On a démarré, enfin, j'ai démarré en VH en 99 à Roubaix. D'accord, donc sans aucun moyen financier, j'étais en découvert quand j'ai commencé. Et on a fait des sortes de gagner de l'argent très rapidement et puis d'investir. Donc on a le pack de la famille, c'était très simple, c'est on réinvestit tous les bénéfices. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et donc on a pu faire grandir l'entreprise avec les moyens, en développant une certaine frugalité en fait dans le développement et beaucoup d'innovation pour pouvoir faire des sortes qu'on puisse faire des trucs énormes sans les moyens. Et donc ça nous a permis d'être hyper innovants sur plein plein de choses dans une entreprise capitalistique qui investit énormément d'argent. Enfin, il faut juste voir, c'est qu'on est en train d'investir sur 5 ans 1,5 milliard, 300 millions par an. En étant une entreprise où on a levé 250 millions d'euros à 20%. Donc c'est quand même assez rare comme histoire. Et donc, mais en partant avec de Roubaix, avec notre mindset frugal, avec tous ces développements européens, moi j'avais un regard très complexé en fait sur nous-mêmes. Et ces complexes, en fait, je l'avais jusqu'à environ 2013-2014, 2012, quand je suis parti au Canada pour créer là-bas la filiale. Je suis resté un an et je m'attendais déjà à voir là-bas, waouh! Wow. On arrive, nous, des ploucs, on arrive là-bas, on va voir un peu comment ils vont nous montrer comment il faut faire les trucs. Et en fait, j'étais vraiment surpris parce que je me suis dit, tiens, on n'est pas mauvais, quoi. On n'est vraiment pas mauvais. Et j'ai passé pas mal de temps aussi à San Francisco, à Silicon Valley, à Palo Alto, à Santa Clara, avec différents fournisseurs. Et au fur et à mesure des rendez-vous, en fait, je me suis dit, mais waouh, mais en fait, nous, on fait la vraie innovation parce que c'est quand nous, on fait, on trouvait que c'était un peu du bidouillage, en fait. On bidouille, on assemble des trucs, etc. C'est pas professionnel. Mais en fait, quand je suis allé là-bas et j'ai vu ce que les gens font et comment ils le font, ben en fait, j'ai compris que c'est exactement ce qu'on fait. Ça s'appelle l'innovation. C'est comme ça qu'on innove.
L'innovation, c'est bidouillage.
C'est à la base, en fait, il faut disrupter, il faut hacker, il faut repenser de manière différente. Et donc, c'est de là que vient l'innovation. Souvent, on dit l'innovation fondamentale, un peu la recherche fondamentale, on trouve un nouveau truc. Oui, c'est rare aussi, d'accord? C'est qu'il y a innovation en fait quelque part un peu plus régulière, c'est pas vraiment de l'innovation, c'est du hacking, c'est-à-dire on a une problématique, on le repense out of the box, on le pense avec des moyens qui viennent d'ailleurs en fait, des idées qui viennent d'ailleurs, et en fait on ne fait pas vraiment de l'innovation, on est en train de juste repenser le même concept avec des réflexes qui viennent des autres industries. Et c'est ça qu'on avait fait. Et en fait, c'est ça ce qui, actuellement, la révolution digitale, c'est ça qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, elle repense les mêmes choses, mais avec de nouveaux outils. D'accord? Le taxi, bah, on va prendre une application et on va appeler ça Uber. Les films, on va les diffuser d'une certaine manière, on va appeler ça Netflix. C'est les mêmes choses, mais d'une autre manière. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé là-bas. Et je me suis dit, bah, pourquoi on a complexé, quoi? On est vraiment très bon. Ce qu'on a fait, les scales qu'on fait, avec les moyens qu'on a, avec le marché qu'on a à notre disposition, bah en fait, on a fait quand même un sacré truc. Et donc, je suis revenu en fait des Canada, des US à cette époque-là, vers 2013, 2012-2013, en disant non, les gars, il faut qu'on arrête quoi, d'être complexé. On est vraiment très bon. Allez, maintenant on y va et on va encore plus fort.
Et est-ce que tu te souviens, dans ton enfance, tu es arrivé de Pologne en France à peu près à l'adolescence, est-ce que tu te souviens comment cette appétence pour l'innovation est arrivée? Est-ce que tu te souviens?
Moi, j'ai eu l'ordinateur, j'ai eu la chance d'avoir un père en fait. Qui poussait dans tous les sens sur les innovations, sur les nouveaux trucs. Donc, en fait, sur la petite histoire, en Pologne, on avait économisé pas mal d'argent pour s'acheter une maison, enfin, une voiture d'occasion. Et donc, quand on a eu enfin l'argent, on a économisé ça pendant des années et on est parti au truc là, où on pouvait acheter des voitures d'occasion. Sur un gros parking, il y avait plein de bagnoles, etc. Et en fait, on n'a pas trouvé. Mais en revenant, on a passé, c'était un week-end, on a passé par un autre parking où ils vendaient des ordinateurs. Et en fait, pour la même somme d'argent qu'on a économisé pour la bagnole, bah, mon père, il a acheté un ordinateur. Et donc, on est revenu avec un ordinateur à la place de la bagnole, après avoir économisé, je ne sais pas pendant combien d'années. Et l'aventure de l'ordinateur a commencé comme ça pour moi, en fait.
D'accord. Et rapidement, toi, tu t'es pris au jeu et
J'ai codé tout de suite.
T'as codé tout de suite,
ouais. J'ai codé tout de suite. Ça m'a hyper intéressé. Donc, moi, j'ai codé, ça devait être 7-8 ans. Mon frangin, c'est encore plus tôt parce qu'il a 7 ans de moins. Donc, lui, il est né avec les claviers dans les mains.
Et de manière instinctive ou il y avait des gens pour t'aider?
Non, on avait des journaux, etc. Je codais avec ça et après, j'avais différentes idées. J'ai codé pas mal de logiciels. Il y en a un où j'ai rempli toute la mémoire. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, j'ai rempli toute la mémoire de l'ordinateur. Et à un moment, j'ai out of memory. C'était marrant, en fait, d'avoir que... Et j'ai codé ça et puis je dépannais des systèmes dans le Caucase ou dans les différentes entreprises qui plantaient. J'avais 12, 13 ans, 14 ans, je débuguais en fait les systèmes informatiques pour les entreprises je ne pouvais pas être payé, donc j'étais payé en chocolat. C'est qu'en Pologne communiste, c'était quand même un sacré truc pour avoir du chocolat, donc c'était un bon deal quand même.
C'était une
dorée rare. Donc je me souviens que régulièrement après l'école, les gens ils m'emmenaient faire des tours dans les différents bureaux pour que je dépanne les trucs et je revenais le soir, j'avais un chocolat.
Alors, les gens qui nous écoutent, qui sont nés après 89, ça, ouais. C'est un peu de la science-fiction, là, ce dont on parle. Est-ce que tu peux nous... Parce que 89, c'est la chute du mur de Berlin, donc la fin du bloc soviétique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les souvenirs que tu as de cette vie, de ce côté du rideau de fer?
Avant 89, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est intéressant, le communisme. C'est très intéressant. Ouais. Je pense que l'idée, elle vient de bon fond, en fait. Mais dans l'exécution... les résultats que ça produit et comment elle déforme la nature humaine, en fait, elle déforme dans le mauvais sens, en fait. Et c'est un système, en fait, qui peut juste pas fonctionner pour une raison assez simple, c'est qu'il donne pas à manger tout le monde. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de productivité dans le système. Les systèmes n'émotivent pas la productivité. Et donc, du coup, le premier truc, c'est que les gens, ils ont, dans les magasins, vous avez rien. Vous avez l'argent, d'accord, mais vous avez rien dans les... Donc le problème, ce n'est pas vendre, le problème, c'est d'acheter. Donc les systèmes, ils sont à l'envers. Le capitalisme, c'est il faut vendre, d'accord, mais le communisme, il faut acheter. Vous avez des acheteurs, des mecs spécialisés dans les achats, avec des bouteilles, des vodka, des machins, des trucs. Donc les systèmes, ils fonctionnent à l'envers. Mais la nature humaine, elle est faite comme elle est. Elle fait les nivelages en fait, des niveaux par le bas en fait. Et donc tout le monde a le même salaire. Tout le monde. Donc vous ne motivez pas les meilleurs à pousser la nation vers le haut en fait. Et donc ça collapse très rapidement en fait. Ça a mis quelques dizaines d'années à collapser avec pas mal de morts, pas mal de parce qu'il y a tout le côté, l'autre côté, les parties uniques, les équivalents typologiques des KGB, etc. Nous, on était en français, avec des passeports français en Pologne, on avait pas mal de problématiques, parce qu'on on disait qu'on était des espions, etc. Donc, il y a plein d'histoires à raconter autour de ça, mais c'est... malheureusement une idée charitable mais très impossible à exécuter. On voit très bien en Chine, en fait, ils modifient les systèmes vers justement cette initiative personnelle, cette capacité à ce que une personne puisse avoir une nouvelle idée et qu'il puisse en tirer les bénéfices personnellement. Ce qui est dans le communisme est juste impossible, en fait.
Et à quel moment enfin, ta famille, puisque toi tu étais encore adolescent, vous choisissez de venir en France et pour quelle raison?
En fait, l'an 87 ou 88, ça devenait vraiment chaud, en fait. On avait vraiment pas mal des problématiques, des KGB, des différents trucs. Mon père, en prenant des différentes responsabilités, en fait, on se retrouvait à un moment dans un truc où il fallait décider, en fait. Et donc, ils nous ont posé la question à moi et mon frangin. Mon père m'a dit, pour nous, vous savez, c'est foutu, on a 40 ans. Donc, si on y va, c'est pour vous. Hein. Donc, est-ce qu'on y va? Et puis, on a dit, OK, on n'a pas hésité une seconde. Donc, on a commencé à préparer les départs. Et puis, on est parti quelque chose comme 18 mois, 24 mois après. Donc, progressivement, toute la famille elle est partie. Des côtés des sœurs de mon père, mes grands-parents, ils sont partis après, et puis nous, on est partis les derniers.
Et vous êtes arrivé à Roubaix. Pourquoi Roubaix?
On est arrivé côté Valenciennes,
Valenciennes, d'accord.
côté Saint-Amand, à Flin, comment ça s'appelait? Je me souviens plus de la ville. Flin sur l'Escaut, Escaut quelque chose. Non, on est arrivé là-bas et parce qu'en fait, mon père il gérait les Caucases, d'accord. Donc il gérait les Caucases pour l'État et donc il reprenait des Caucases en faillite et il les redressait. Et ça, c'était hyper suspicieux. Donc, quand on est parti, en fait, il fallait trouver du boulot. Donc, notre famille qu'on avait ici, ils ont trouvé du boulot côté Valenciennes, côté Saint-Amand. Et puis, on a commencé comme ça, en fait.
Et toi, quel est c'est un choc d'arriver en France. Tu parles pas le français, je crois.
Ouais.
Comment tu t'adaptes?
C'est intéressant comment on s'adapte. On développe tout un tas de nouvelles capacités, en fait. Effectivement, quand je suis arrivé à 15 ans, je parlais pas du tout français. Et je suis parti à l'école. Donc c'est intéressant, je parlais un tout petit peu l'anglais. On développe une capacité à essayer de comprendre ce qu'il dit à travers la mimique, à travers les yeux, à travers les visages, à travers l'expression. Et l'expression, enfin, l'empathie, en fait, on développe l'empathie. Et plus un mot ou deux par minute. Et donc avec ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, de quoi il s'agit, et on essaie de répondre par ça. Donc ouais, c'est intéressant à développer cette faculté et essayer de suivre les conversations de cette manière-là. Et puis il s'est passé un truc, c'est que j'ai développé un logiciel pour une entreprise quand je suis arrivé en France. Et la boîte m'a payé avec pas en argent, mais ils m'ont offert une mobylette.
Après le chocolat, la mobylette.
Voilà, donc j'ai eu la mobylette. Et la mobylette, c'était l'ouverture vers le monde. Grâce à ça, j'ai pu avoir des copains. J'ai pu faire de la musique, j'ai pu avoir plus d'interactions avec les gens et avec des amis. Et du coup, parler plus français. Et je pense que c'est ça qui m'a permis en fait d'interagir, d'apprendre beaucoup plus rapidement que j'aurais pu faire sans avoir le contact avec l'externe.
Comment tu arrives progressivement, finalement assez vite, à l'histoire d'OVH? Et c'est une histoire familiale d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir en dire davantage, mais qu'est-ce qui t'amène à cette idée-là en particulier?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des études à l'ICAM. Donc, j'étais, je crois, qu'en quatrième année, et en troisième ou quatrième année, et on commençait à avoir les accès Internet, etc. Il y avait différents accès à Internet, et je trouvais ça fabuleux. Et à un moment, en fait, je commence à vouloir coder, en fait, et pousser le code sur l'Internet pour voir le truc fonctionner, pas un truc statique. Mais quelque chose de dynamique. Aujourd'hui, c'est banal, mais en 87, 88, c'était assez, assez innovant. Et donc, ça m'a, wow, ça m'a ouvert tout un tas d'idées en disant, waouh, on peut tout faire, quoi. C'est incroyable. Donc, je commençais à passer pas mal de nuits dessus. Et pour mon stage ingé, donc, je suis parti en Angleterre, 6 mois. Ça devait être en 88. Et 88. 98, et j'ai passé en fait 6 mois à coder. J'avais un peu d'économie, j'ai tout claqué dans dans l'accès, je suis revenu à sec, mais c'était incroyable en fait. Et donc je codais auverge.net, et j'offrais les services gratuits pour rendre les sites dynamiques. Donc les sites, globalement, il y avait des hébergeurs statiques, on pouvait mettre des pages web statiques, mais c'est chiant, c'est un site statique. Et donc moi, je codais des petits logiciels en fait dynamiques qui rendaient les pages statiques un peu plus dynamiques. Et donc on avait quoi ? On avait un compteur de visites, un guestbook, un petit forum, des petits trucs en fait qui d'un coup, il y a l'intérêt de revenir, etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment marché en fait. Ça a créé une communauté et tout était gratuit en fait. Et donc l'hébergeur qui m'hébergeait à l'époque, il m'a à un moment envoyé un email en disant « il y a beaucoup trop de trafic sur ton site, ça prend trop de ressources, je dois arrêter ton site ». J'ai dit « stop, stop, n'arrête pas mon site, moi j'ai une communauté, je peux te faire de la pub et en contrepartie, est-ce que tu peux m'aider à mettre en place un serveur dédié pour moi ?» Pour que moi je puisse bouger mon site web sur ce serveur-là et que je ne t'embête pas et que j'ai mes propres ressources. Il m'a dit OK. Et donc je suis descendu de Doncaster par Londres. Ma mère m'a acheté un ordinateur. J'ai pris ça sur le bras, j'ai pris l'avion. Je suis parti de l'autre côté. J'ai payé les taxes à la douane et je voulais louer la bagnole pour aller en Pennsylvanie parce que c'était là-bas et j'avais pas l'âge pour louer la bagnole aux US. Donc le gars il m'a fait la fleur en m'envoyant une limousine qui m'a conduit pendant 2 heures ou 3 heures vers chez lui. J'ai passé une semaine à installer le serveur et c'est là en arrivant en fait dans le data center, dans le fameux data center où j'allais héberger l'ordinateur, mon serveur en fait que j'avais sur le bras. En fait, c'était pas un vrai data center, c'était une cabane au bois. Cabane au bois au fin fond d'un jardin, avec une connexion internet par cuivre qui venait par les lignes téléphoniques. Et donc, quand on entrait dans la cabane, l'ordinateur était sur la table et les miens étaient, il m'a posé juste à côté. Pour le brancher, il a débranché tout l'internet parce que c'était encore en 10 mégabits BNC. Donc, il a débranché des câbles, etc. Donc, il a mis en panne 100 serveurs pendant 3-4 secondes. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, je vais faire ça moi. Je vais faire ça, mais je vais faire ça beaucoup mieux que ce qu'il fait. Et donc, je suis reparti dès là avec un serveur installé, mais aussi tout un tas de nouvelles idées de tout ce que je pouvais faire. Et donc, quand j'ai fini les études, j'ai essayé de bosser dans une boîte standard. J'ai fait 5 semaines dans une boîte et j'ai dit stop.
C'est qui ?
J'ai fait chez Alcatel.
Chez Alcatel.
À Rennes. Et au bout des 3 semaines, j'ai dit stop, je ne peux plus. Et j'ai démissionné au bout des 5e semaine.
C'était quoi l'inertie
Non, c'est juste. J'avais besoin d'être connecté aux clients. J'avais besoin d'être connecté à l'Internet. J'avais besoin d'être ces interactions. J'avais besoin de ces échanges-là. J'avais besoin de partager. J'avais besoin d'interagir et avoir du sens dans ce que je fais. Et donc, j'ai créé OVH pour 2 raisons. C'est que je voulais faire une boîte différente où les rapports humains seraient différents, presque amical. Il y a beaucoup d'amis, en fait, chez OVH. Moi, j'ai beaucoup d'amis chez OVH, mais les amitiés se font à travers OVH. Et c'est ça, cette communauté, en fait, des gens, c'est ça qui m'intéressait à faire dans un cadre professionnel où on se dit, le boulot, ça peut être aussi super sympa. Ça ne doit pas être forcément un truc chiant, où le matin, c'est pénible pour y aller, et le soir, on est content de rentrer, et puis lundi, c'est dur. Moi, je voulais faire l'inverse, en fait. Là, je voulais faire un boulot où on dit, on fait notre passion, on fait un truc hyper passionnant, qui nous dévore de l'intérieur tellement c'est waouh, on se réalise. Et donc, je voulais proposer, en fait, ça comme travail. Donc, je voulais faire ça pour cette raison-là, pour créer une boîte sur les fondamentaux humains différents. Et deuxième, je voulais que ça soit quelque chose autour des ordinateurs connectés à l'Internet avec de la donnée, avec du réseau, avec de la puissance des calculs pour développer tout un tas de logiciels qui pouvaient tourner sur Internet.
Mais à ce moment-là, est-ce que tu comprends que le sujet que tu es en train d'adresser, c'est un peu comme les vendeurs de pelles au moment de la ruée vers l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui sont devenus riches, c'est eux qui ont détenu un peu la valeur. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que ce sujet-là, c'est celui qui peut vraiment faire une très, très grosse entreprise?
J'ai jamais rêvé d'une grosse entreprise. Ce que je voulais toujours, c'est faire mes petits trucs. D'accord. Donc moi, je suis un dev à la base. J'ai fait du sysadmin. Et c'est ça qui m'intéresse à faire. Pendant très longtemps, on n'avait aucune conscience de ce qu'on faisait. D'accord. On n'avait aucune conscience de l'impact sur le marché. Est-ce qu'on était numéro un ou est-ce qu'on était numéro deux, etc. On n'avait aucune idée de ce qui en était. Et c'est seulement au bout de, je crois, que 7, 8 ans ou 10 ans qu'on commençait à prendre conscience, en fait. Bah, qu'on était numéro en France, on ne savait pas. D'accord? Donc, il y avait tout un. Et à la limite, on s'en fout, en fait. Ce n'est pas ça qui nous a vraiment motivés, ce qui nous motive encore. L'idée, en fait, c'est faire cette aventure humaine et faire ces innovations autour de l'ordinateur, de l'Internet, de l'accès, pour aider les gens à innover, en fait. Donc, quelque part, le numéro, etc., ça n'a pas vraiment compté. L'argent, le chiffre d'affaires, ça n'a pas été vraiment motivation dès le départ non plus. Je me souviens que très longtemps, on n'avait pas de système de renouvellement. Les clients commandaient la première fois, mais on ne le renouvelait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, non, en fait, il nous faut un peu d'argent quand même. Donc on va coder cette partie-là, et on a codé, on a demandé, s'il vous plaît, si vous pouvez renouveler le service au bout d'un an ou 2 ans, ça aurait été bien. Parce que ce n'était pas la motivation de l'entreprise. La motivation, c'était toujours ces deux choses-là. L'argent aujourd'hui, il est important dans la mesure où c'est un moyen de croître et de faire de nouvelles choses. Et on a plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. Je passe sur des jours d'imaginer le futur d'OVH. J'ai plein d'idées et il nous manque des moyens. Et donc, forcément, on a envie de faire du chiffre d'affaires pour avoir encore plus de moyens, de faire des trucs encore plus grands et d'aller avoir des nouveaux services qui vont encore plus aider les clients et donc de réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et moi, c'est ça qu'en fait qui me motive énormément, c'est toutes ces nouvelles idées que tous les jours, le matin, je me réveille et je le vois que tout ce qu'il y a encore à faire.
Est-ce que tu te rends compte, ou à quel moment tu te rends compte quand même que ça devient quelque chose de qui compte, et en tout cas le regard des gens change sur OVH? Est-ce que tu le perçois, ça?
C'est très récent, je pense que c'est 2 ans environ.
D'accord, au moment de la levée de fonds. Juste après,
après, je pense.
Juste après même.
C'est juste après. Je pense qu'en fait, c'est dans ces scales où on a passé de 1200 à 2500 personnes. C'était une période assez compliquée, en fait, parce que recruter autant de gens, les faire entrer, et en fait, on s'est aperçu. En fait, on n'a jamais écrit quelles étaient nos valeurs, la mission, etc., parce que c'était tellement limpide et fort, qui c'était pas nécessaire de l'écrire. Et donc, on l'a commencé à écrire il y a moins de 2 ans, en fait. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, quand on a fait entrer autant de gens, qu'il y avait des malentendus, qu'on s'est pas bien compris, sur nos valeurs, sur la mission, sur comment on doit travailler ensemble, sur la collaboration, tout un tas de choses qui, moi, me paraissaient juste anodins. En fait, c'est juste, j'ai jamais connu une autre boîte. D'accord? Donc, je ne pouvais pas savoir que notre boîte, elle est différente. C'est qu'on a construit, elle était tellement puissante, tellement innovante, tellement différente, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en disant, moi, je comprends pas. Mais comment tu ne peux pas comprendre? Je veux dire, on collabore. D'accord, on travaille ensemble, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On est tous là en train de résoudre des différents problèmes et chacun a sa mission, mais on y va tous ensemble. Oui, mais je comprends pas. Donc là, c'était vraiment un choc, en fait, en disant que waouh. Mais quand je me rappelle, je me suis toujours dit, encore 5 ans, qu'on recrutait toujours des jeunes après les études, jamais quelqu'un avec l'expérience. Et donc, c'était une feuille blanche à écrire dessus, donc on pouvait l'adapter par rapport à notre entreprise. Et là, avec le recrutement de gens avec l'expérience, etc., on se retrouvait à ces chocs culturels. Et donc, ça nous a poussé à écrire les missions, les valeurs, mais aussi mieux organiser l'entreprise, trouver une sorte de hiérarchie, à la OVH, en fait. Donc, le premier organigramme d'OVH, je crois que ça date il y a 3 ans. On s'est forcé à l'écrire parce qu'à un moment, il en fallait.
Au bout de 17 ans ou 16 ans
Ouais,
d'existence.
c'est vraiment incroyable, en fait. Et c'est là que je commençais à prendre conscience en disant, je crois qu'on a fait un truc différent, vraiment différent. Et je pense que le pourquoi nous a animés pour créer ça, c'est le pourquoi on a réussi. Pourquoi on réussit, en fait. Pourquoi une boîte comme OVH qui est partie avec rien à Roubaix et aujourd'hui est face à des plus grands géants du net, Amazon, Google, Microsoft, arrive à s'en sortir. L'innovation technique, ok, c'est une partie. On n'est pas mauvais dedans, mais les gars en face, ils sont très bons aussi. C'est qu'il doit y avoir autre chose. Et ces autres choses-là, c'est nos valeurs, la mission, la manière de s'organiser, la manière de partager le quotidien ensemble, de travailler, de délivrer des choses, de gagner de nouveaux paris. Bah, en fait, je pense que c'est ça, en fait, qui nous fait réussir. Et donc, j'ai l'impression, en fait, que le pourquoi m'a animé à créer cette boîte-là, c'est le pourquoi aussi les entreprises comme les nôtres y réussissent. Et je pense que c'est encore plus important, en fait, mettre ça en avant que vraiment le job qu'on est en train de faire. Et quelque part, je retrouve cette pattern, en fait, qui est de c'est nos valeurs, la manière, en fait, de structurer la collaboration. Je le retrouve pattern avec toutes les boîtes qu'ils ont réussi dans la Silicon Valley.
Tu penses à qui?
Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, californiennes qui réussissent et qui ont réussi. Google, par exemple, ou d'autres typologies des boîtes, Facebook, dans ces premières phases de développement, en fait, ils ont fonctionné de cette manière-là aussi. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est un pattern de pas mal de boîtes qui réussissent. Et lorsqu'on essaye de mettre une manière d'organiser ancienne et hiérarchique, et siloter les gens ne travaillent pas ensemble, mais en fait les boîtes elles fail. Parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, dans les startups, on a très peu de temps, il faut que tout le monde s'y mette, il faut bosser tous ensemble, il faut partager l'information, il y a pas tous ces jeux de pouvoir, des politiques, etc. Parce qu'il n'y a pas le temps. D'accord? Sinon on est en survie et on est en survie tout le temps et donc on n'a pas de temps pour ces conneries-là, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a fait que je veux continuer à avoir chez OVH, c'est cette mode de survie. Même si aujourd'hui on est beaucoup plus grand, on fait 600 millions de chiffre d'affaires, on va faire 1 milliard dans 3 ans. Donc je m'en veux dire, c'est bon pour vous. Non, moi, c'est tous les matins, je me lève et je suis en mode survie. D'accord? Je m'impose d'avoir ça, c'est-à-dire, non, les gars, c'est une question de vie ou mort dans la journée, en fait. On fait des trucs dans la journée, on doit délivrer dans la journée parce que sinon c'est la mort le soir. Et donc, j'essaie de maintenir ça, ces rythmes de travail, pour moi, pour les équipes. Donc, oui, je bosse pas mal. J'essaie de donner une direction à l'entreprise. On bosse pas mal, on bosse beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension sur ça quand on a recruté des gens. Une boîte cool, ouais, on est cool, mais attention, c'est pas peut-être le même cool que vous pensez, en fait. Donc on est en train de encore bosser là-dessus pour repréciser chaque mot, pour dire non, cool, c'est pas exactement ce que vous voulez dire, en fait. Non, on bosse dur, on est ambitieux, on a une ambiance décontractée entre nous, on est simple, mais ce qu'on fait, c'est des trucs des malades, on a une responsabilité vis-à-vis des données. Donc, c'est repréciser tous ces mots-là pour pouvoir décrire l'aventure dans laquelle est OVH et recruter sur les bonnes bases.
Moi, il y a une personnalité, je voudrais qu'on aborde aussi, qui est importante dans ton histoire, en tout cas qui l'a été à un moment donné, c'est Xavier Niel,
Oui.
qui te décrit comme un héros français à la vie de roman.
Il est
Comment
gentil, Xavier.
s'est passée la rencontre et comment il t'a aidé au tout début?
Ah, c'est incroyable, en fait. En fait, à un moment, en fait, j'ai démarré aux US, mais juste après, quand j'ai créé l'entreprise, il fallait que ça soit hébergé en France. Donc, j'ai trouvé un hébergeur. Et en fait, on avait pas mal de croissance. Donc, on avait des nouvelles installations très rapidement. Et en fait, à un moment, ça marchait plus, en fait. On était tellement gros chez eux, on consommait tellement de bandes passantes, des différents trucs, que ça marchait plus très bien. Mais on avait des contrats d'1 an ou 2 ans, je sais plus. Et en fait, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, par je ne sais pas quel biais, on se retrouvait en contact avec Rani et avec Xavier. Je me suis retrouvé en contact avec eux, et on a échangé et ça a fité très vite, en fait. Et donc, ils m'ont proposé de reprendre leurs anciens bureaux qu'ils étaient. Ils venaient déménager de l'autre côté à Courbevoie et à rue Mamelot, en fait, et de retrouver leurs anciens bureaux, en fait. Et donc, je suis allé voir avec Rani les locaux, et c'était dans une cave de baies, etc. Moi, c'était le rêve, quoi. Là, je voyais plein de baies, plein de connexions. Ça y est, c'est bon, je peux croître ici, c'est bon. Donc, je déménage tout. Et donc, j'ai déménagé. Et à un moment,
C'est en quelle année ça?
ça devait être 2000, 2001.
C'est au tout début, hein, tout
Ouais,
début
c'est tout,
d'évolution.
tout au début. Je pense que c'était 2001, quelque chose comme ça. Et là, on a commencé à croître à mort. Et on a rempli tout ça, je crois qu'en 1 an, 2 ans. Donc, après, je dis à Xavier, bon, et là, j'ai besoin de plus. Donc, il m'a trouvé d'autres places à Courbevoie. Et en 2003, je dis, j'ai besoin encore plus, t'as pas d'autres trucs? Et il me dit, là, je peux plus, enfin, j'ai pas de data center pour toi. Par contre, j'ai un bâtiment à Paris 19 et que nous, on va se débarrasser, on veut plus. Si tu veux, tu peux visiter et regarder si ça t'intéresse de l'acheter. Et donc, on a visité, et là, c'est waouh, énormément de place, on peut faire un super data center, c'est génial. Ok, mais les banques, elles ne me prêtent pas de l'argent, donc je suis allé à la banque, et ils m'ont dit, bah non, vous ne pouvez pas prêter. Xavier, il m'a dit, bah, si tu veux, je te prête de l'argent. Pas de problème, en fait, t'es un crédit il y a 10 ans, on s'en fout, en fait. J'ai dit, bah, ok, allez, bingo. Et donc, vers mi-2003, on a acheté le bâtiment. Vers 2020, fin 2003, on a acheté le bâtiment, on a fait du water cooling là-dessus. C'était un bâtiment, c'est assez complexe en fait, comme pour en faire un data center. Il y a des habitations en haut, etc. Et donc on a dû chercher en profondeur à 60 mètres de profondeur l'eau fraîche qu'on reprend pour pouvoir refroidir les data centers et les réinjecter d'elle en nappe phréatique. Tout à fait légal.
C'est bien important de le préciser parce que ça peut
Non, non, mais
interpeller.
il y a plein d'entreprises le font à Paris. Il y a énormément d'installations. Mais nous, ça nous a permis de récupérer du froid. Et derrière, de développer un système de water cooling à l'intérieur de ces bâtiments-là. Quand il y avait peu d'ouvertures pour évacuer de la chaleur, il n'y avait pas d'autre moyen que faire avec de l'eau. Et donc, ça nous a forcé à inventer une solution à ces bâtiments-là, et c'était water cooling. Et
Une
ces water.
solution inventée par toi ou ton père?
Ouais, c'est
Ouais,
mon
c'est
père
ça,
qui
c'est ton père
l'a
qui a
mis en
inventé.
place. Il a mis
Ouais.
1 an pour remettre en place. Et aujourd'hui, on refroidit tous les serveurs avec de la flotte. 350 000 serveurs physiques, dont 28 data centers partout dans le monde, qui tournent avec le water cooling. Et ça nous donne des avantages incroyables, en fait, en termes des investissements. Enfin, juste, il faut voir, c'est que vous achetez un serveur standard, un ordinateur standard dans le marché. Moi, par exemple, si ces serveurs-là, si ces ordinateurs-là, ils consomment 130 watts, moi, je vais prendre les mêmes et il va consommer chez moi 1000 watts, 100 watts. D'accord, il va consommer 30 watts de plus. Comment je fais ça? C'est pas un miracle. J'enlève tous les ventilateurs de l'ordinateur. Et les ventilateurs, globalement, ils consomment 30% de la consommation électrique d'un serveur. Et j'économise déjà dans la consommation électrique d'environ 30%. J'ajoute du water cooling qui me consomme 10 watts, quelque chose comme ça. Et globalement, lorsque je compare avec un data center standard, donc un bâtiment où on héberge, on stocke des serveurs, je consomme la moitié. Donc, en termes des investissements dans mes data centers, j'investis la moitié. Et en termes des consommations électriques au quotidien, je consomme moins la moitié. Ce qui veut dire, c'est qu'à la fin de la journée, mes prix, ils sont beaucoup moins chers que ceux de mes concurrents. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a mis en place l'une des innovations d'OVH. Et donc, c'est grâce à Xavier, c'est grâce à ces bâtiments-là, c'est grâce aussi aux contraintes. C'est vraiment, on réfléchit sur la contrainte. C'est génial, en fait, d'avoir les contraintes, en fait. Moi, lorsque vous me donnez énormément de contraintes, j'adore ça parce que c'est là qu'on innove. C'est là qu'on doit trouver un truc. Il faut ça, 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 ça et ça. Oui, mais ça, on peut pas. Je veux dire, c'est impossible. Oui, mais C'est là qu'on innove, c'est là qu'on crée quelque chose de nouveau. Et moi, j'adore travailler sur la contrainte.
Et ça reste l'innovation majeure d'OVH à ce jour ou pas ?
Non, on en a plein d'autres. Enfin, sur les data centers, par exemple, mais c'est des détails techniques dont je ne sais pas si... mais par exemple, souvent dans les data centers, les ordinateurs, on les stocke verticalement. D'accord ? Donc là, on a ce qu'on appelle des racks, des baies. Et les baies sont verticales, d'accord ? Ils ont environ 50 cm de largeur et ils ont 3 mètres de hauteur. Nous, on n'a pas les baies verticales, on a les baies horizontales. On a fait les baies qui ne sont pas très hautes, mais ils sont très longues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a deux usines de fabrication des serveurs. On n'achète pas les serveurs à l'extérieur, on les fabrique nous-mêmes. On a investi dans les robots pour plier les tôles, pour découper les lasers, etc. On a 100 personnes qui assemblent les serveurs au quotidien. On fabrique 80 000 serveurs par an. On a une usine en Europe, une usine au Canada. Et donc, pour fabriquer tous ces serveurs, pour déployer les infrastructures de manière massive, scalable, très rapide, on a mis en place les baies. Donc, ces baies horizontales qui sont équipées des serveurs, de tout le switch, tout l'ensemble des câbles et de l'infrastructure est directement dans la baie. Elle est envoyée directement comme ça dans le data center. On met une heure pour connecter la baie et ensuite elle fonctionne. On rack pas les serveurs un par un dans une baie comme dans un data center standard. On a repensé tout l'ensemble de la chaîne supply chain d'approvisionnement des data centers, des vies du serveur, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, deux ans, cinq ans au niveau du serveur, comment on les déraque, comment on les rora, comment on les améliore, etc. On a énormément d'innovations aussi au niveau des softwares. On prend le standard du marché, les softwares que les gens ils ont l'habitude d'utiliser, Microsoft bien sûr, Linux, mais aussi des systèmes comme OpenStack ou comme VMware ou comme des bases de données standards, MySQL, etc. Tous les standards et on les fait tourner chez nous. Et on les ménage pour les clients. Et donc des clients qui ont l'habitude d'utiliser ces softwares-là, ils peuvent venir chez nous utiliser les mêmes, ils peuvent partir de chez nous utiliser ça ailleurs ou chez eux à nouveau. Donc c'est toutes ces innovations-là, la manière de réfléchir le software pour pouvoir très rapidement déployer énormément de clients, j'ai développé du software et pour pouvoir m'aider en fait. Et cette attitude-là, software attitude, ça a permis d'avoir des gains de productivité énormes parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir des gens pour pouvoir faire des choses, mais le software, il faisait des choses qu'habituellement dans les autres entreprises, les gens, ils le faisaient. Et donc, on gagnait des contrats juste parce qu'on était moins cher, pas parce qu'on gagnait moins d'argent, mais parce qu'on était plus malin à travers software. C'est comme ça, en fait, on a continué à croître. Maintenant, avec les gens américains, l'histoire est un tout petit peu différente. Ils sont vraiment très bons dans le software. Et c'est le défi, il est sur comment on va être meilleur sur le software, quelle typologie des marchés on va viser. Et là, il y a pas mal de choses qu'on peut encore raconter autour de ça.
Et dans tout ce continuum d'innovation, il y a un moment personnel pour toi qui a été... Enfin, qui peut être assimilé à un accident, mais en tout cas, tu as eu un cancer en 2011. Comment tu l'apprends et comment tu le gères ?
L'histoire du cancer, ouais. On l'a détecté pendant les vacances, je crois qu'en septembre 2012. Donc, je suis parti au Canada en 2011. J'ai bossé avant au Canada et au Canada comme intérêt. C'était vraiment beaucoup de travail. Au Canada, c'était super intéressant. Je pense que c'est le plus gros risque que j'ai jamais pris en fait pour OVH. Donc j'ai bossé pendant 9 mois pour signer 10 différents contrats et finalement ça s'est bien passé. Et donc comment le cancer il est arrivé pendant tous ces jours en fait des Canada, à un moment j'ai porté un gros routeur en fait et j'ai ressenti un truc dans le dos et ça a claqué. Et je lui ai dit, depuis ce moment-là, en fait, donc c'était en janvier 2012 environ, j'avais mal au dos, en fait. Et au fur et à mesure de temps, j'avais de plus en plus mal au dos et j'avais de plus en plus de mal de me déplacer. Mais je ne suis pas allé à l'hôpital parce qu'il fallait absolument qu'on finisse tout le boulot. Et en fait, je suis à un moment allé au l'hosto parce que c'était vraiment très douloureux et ils m'ont fait un mauvais diagnostic. Ils n'ont rien trouvé, en fait. Et ils ont fait des scanners, ils n'ont rien trouvé. Donc j'ai eu des antidouleurs et je suis retourné chez moi. Et un mois plus tard, ils sont venus à la maison, j'arrivais plus à bouger les pieds. Et ils m'ont récupéré l'hosto à nouveau. Et là, je suis reparti une heure après en disant bah, vous n'avez rien, vous retournez. Donc ça, c'était à l'hôpital au Canada. Et comme ça, jusqu'au je crois que août. Et en août, je suis revenu en France pour le mariage de mon frère. Et en juste avant de repartir, je me suis dit, je vais quand même passer à l'hôpital. Donc, j'arrivais quasiment plus à marcher, en fait. Donc, pour dire, vraiment, j'ai poussé les trucs jusqu'au bout. Et donc, je suis allé chez le médecin. Le médecin, il m'a envoyé voir la diagnostic, faire un scanner. Ils m'ont fait un scanner. Et là, c'est parti, en fait. Un autre projet qu'il fallait absolument délivrer. Et je suis parti en chimio avec énormément d'envie.
Écoute, on va pas insister. C'est pas. Quel est le moment où c'est vraiment terminé? Juste, dis-moi l'année qu'on.
Le cancer, en fait, après 3 mois de chimio, miracle, au TEP, on m'a détecté que j'ai plus rien. C'était vraiment incroyable. Et bah, il fallait terminer tout le protocole. Et donc, en juin 2013, bah, on m'a dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. Il faut que tu attendes 5 ans. Donc, j'ai refait des TEP. Et puis, 5 ans plus tard, bah, l'année passée, on m'a dit, c'est bon, tu n'as plus rien. C'est bon.
Donc, quand tu parles de survie tout à l'heure, quand tu dis on est en mode survie tous les jours, c'est au sens littéral quasiment.
Oui, mais je n'ai jamais ressenti que... Jamais vu le cancer comme un truc que je pouvais failer. C'était il fallait réussir ça parce que c'était le truc à faire. Comme tous les autres projets que j'ai fait, en fait. Donc quand je fais un truc, je fais à fond. Peu importe le truc, mais non, c'est très intéressant, en fait, le cancer. C'était très intéressant, c'était très dur, très dur. Les chimios étaient très difficiles, etc. Mais ça apporte un autre regard sur la vie, mais plus tard, c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait. Sur le coup, j'ai vraiment pas réalisé. J'ai passé le projet, je suis passé à un autre projet, j'ai fait d'autres trucs juste après, etc. C'est comme si c'était un projet, comme si de rien n'était, en fait. Mais en fait, la balle n'a pas passé très loin, en fait.
Et pour terminer sur une note peut-être plus positive, mais tu joues aussi de la musique. On t'a vu sur scène, notamment lors des grands routes OVH. Un album, peut-être, un de ces quatre.
C'est vrai que je compose, et c'est vrai que j'envie un moment de... J'ai déjà été au studio, c'est incroyable, l'expérience du studio, avec des musiciens, des vrais. c'est un truc que j'aimerais bien faire à un moment, ouais. Sortir les... il y a des gens qui sortent les albums tous les ans, juste c'est des essais, en fait, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Maintenant, il faut trouver du temps, il faut s'enfermer, il faut mettre des trucs. Donc c'est une discipline que j'ai pas encore, mais que j'aimerais bien acquérir, en fait, de pouvoir dire je stoppe toute l'activité professionnelle pendant 2 semaines, 3 semaines, je vais dans un studio pendant 1 semaine et demie, j'enregistre tout ça, ou on répète avant et on enregistre tout ça en 1 semaine, et on sort un album 2-3 mois plus tard. L'objectif, c'est vraiment se faire plaisir, partager un moment avec des musiciens, créer quelque chose ensemble, et partager ça avec d'autres personnes pour dire si vous aimez, tant mieux.
Et si tu avais pu te retrouver sur scène avec un musicien, ça aurait été lequel ?
Non, il y a des rêves inaccessibles comme Jimmy Page, mais c'est bon.
Jimmy Page, ok. Bah écoute, Octave, merci, un grand merci. Et puis à bientôt, j'espère. Merci.
Ouais, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Take Off. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou sur toutes les autres plateformes. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.